Avant de débuter cet épisode 8, sachez que si vous avez loupé les précédents épisodes de votre série, vous pouvez les écouter avant d'entamer celui-ci. Pour les autres, comme d'habitude, votre épisode inédit commence maintenant. 1994. Plus grande est la star, plus grande est la cible. Et Michael l'a appris à ses dépens. L'affaire Chandler a été désastreuse pour sa carrière et sa vie privée. Malmené depuis de longs mois, il a été lâché par beaucoup de monde dans son pays et même par certains membres de sa famille, à l'image de Latoya, sa sœur aînée. Il rentre alors dans une colère noire, prêt à en découdre avec tous ceux qui lui ont gâché la vie.
Oui, je pense qu'il est coupable. Oui, il l'est. Sinon, pourquoi payerez-vous 40 millions de dollars si vous êtes innocent?
Oui, il est peut-être coupable. Et peut-être qu'il essaye d'étouffer l'affaire, mais honnêtement, je ne pense pas que ce soit le cas.
Ce qu'on m'a fait endurer est tout simplement injuste. Car rien n'a prouvé que j'avais fait une chose pareille, absolument rien. Ils ont inspecté ma chambre, ils ont fouillé dans tous mes livres, toutes mes cassettes vidéo, ils ont fouillé dans toutes mes affaires, ils n'ont rien trouvé. Rien. Rien qui dise que Michael Jackson a fait ça. Rien. À ce jour, toujours rien. Rien du tout. Rien de chez rien.
Un artiste, quel qu'il soit, ne fait jamais l'unanimité. Mais on peut dire que ça s'applique surtout quand on s'appelle Michael Jackson. Ces déboires judiciaires conclus par un arrangement financier ont semé le doute au sein de la société et l'image du roi de la pop est désastreuse à cette époque. Aux yeux du monde, Michael est un criminel qui doit être puni et en privé, celui qui était autrefois le numéro 1 souffre terriblement. Il devient accro aux médicaments, incapable d'oublier ce qu'il vient de se passer. Et pour ne rien arranger, la presse est encore plus virulente à son égard, mais heureusement il peut compter sur un soutien de taille, sa femme, la fille, d'un célèbre chanteur. Isabelle, les mois passent, et même les années, et pourtant les retombées de l'affaire Chandler se font encore ressentir du côté de Michael. Alors comment se sent-il des mois après le règlement de cette affaire judiciaire?
Après l'affaire Chandler, Michael Jackson continue d'être malmené dans les médias. En fait, ceci contribue à nourrir une mauvaise image de lui dans l'opinion publique. Même son mariage, pourtant sincère, avec la fille d'Elvis Presley, n'arrange pas les choses. On y voit une nouvelle curiosité de plus, un drôle de hasard, finalement. Une association de deux clichés, un peu trop beau pour être vrai, trop bizarre pour tomber dans ce contexte avec sincérité. Michael Jackson, lui, est frustré. Il est déçu face à tous ses jugements, face à cette nouvelle incompréhension dont il fait l'objet et par rapport même aux choix qu'il a fait et qui sont tout aussi incompris que lui.
J'ai vécu ce genre de choses toute ma vie. Me cacher, me fuir. Je l'ai tellement vécu que je dis stop, arrêtez. Vous ne devriez pas dire c'est un animal. Vous ne devriez pas dire c'est Jacko. Je ne suis pas Jacko, je suis Jackson. Wacko Jacko, d'où ça vient ça? Des tabloïds anglais? J'ai un cœur et des sentiments et je le ressens quand ils le font. Ne le faites pas, c'est pas gentil. Ne le faites pas, je ne suis pas sanglais.
La situation devient insupportable, l'atmosphère est étouffante et la colère grandit dans la tête de Michael. L'artiste se sent de plus en plus incompris et rejeté par la société, alors depuis le mois de janvier 1994, le roi de la pop planche sur son nouvel album. Le chanteur s'est envolé avec une partie de son équipe à New York pour atterrir au Hit Factory, mais Sony, qui a racheté Epic Records 3 ans auparavant, juge ce déplacement inutile. Et pour cause, le nouveau projet de Michael doit être un best-of de ses plus grands titres, enrichi de 5 chansons inédites. Beaucoup trop inspiré, Michael va en livrer 10 de plus. Le projet d'un best-of est alors annulé au profit d'un double album, baptisé History. Ce disque s'annonce très personnel. On le répète depuis le début de cet épisode, Michael est frustré, en colère même, face à ce qu'il considère comme des injustices. Isabelle, est-ce qu'on retrouve cet état d'esprit dans la conception de ce nouvel album ?
Même si les thèmes de l'album History sont globalement généralistes, c'est vrai qu'on a tendance à dire que c'est l'album qui est le plus autobiographique de Michael Jackson. Et c'est pas faux. C'est vrai qu'à cette époque, il a grand besoin de s'exprimer et de réagir suite aux événements majeurs et traumatisants qu'il a vécu, entre les polémiques de pédophilie et son mariage qui est mis en doute avec Liza Marie Presley. Du coup, c'est vrai que cet album présente une approche plus directe et violente même de certains thèmes sociétaux. Certaines chansons vont même susciter la censure. Et deux vidéos en particulier vont avoir ce ton agressif et ce parti pris polémique qu'on ne lui connaissait pas jusque-là et qui vont déstabiliser l'entourage, les fans et surtout les médias. Lui, son objectif est de montrer qu'il est bel et bien là, qu'il a une carrière derrière lui, une assise artistique et historique et qu'il a encore des choses actuelles, nouvelles, visionnaires à proposer. Il veut vraiment faire un album fort, diversifié, puissant, qui soit incontournable et reconnu de tous.
Il a un genou à terre, certes, mais il n'est pas encore mort, puisque dans son esprit, il a encore des choses à prouver à ce stade de sa carrière. Et c'est vrai qu'à défaut de l'avoir épargné, l'affaire Chandler va être le déclencheur d'une nouvelle évolution du roi de la pop. Et ce qui est intéressant avec History, c'est que Michael va nous dévoiler un nouveau visage qui est bien loin de ce qu'on avait l'habitude de voir le concernant, Isabelle.
Alors c'est vrai qu'il va aussi chercher à contrer une image qui est un petit peu trop théâtrale et un peu mielleuse, ce qu'on lui reproche à l'époque avec ses hymnes bien pensants et fraternisants précédents. Il va aussi s'adapter au marché et au changement de goût du public jeune qui à cette époque adule Kurt Cobain, Tupac Shakur ou Alanis Morissette. Du coup, évidemment, il fait appel à des collaborateurs qui s'inscrivent dans cette tendance, avec Babyface, encore une fois Dallas Austin, Teddy Riley, Jimmy Jam ou Terry Lewis.
Et pour contrer cette image de garçon naïf qu'on a tous en tête quand on pense à Michael Jackson, il va aller encore beaucoup plus loin et ne va pas lésiner sur les moyens pour marquer l'histoire. Vous le savez, un album est toujours accompagné d'une promotion. Et celle d'History va susciter à l'époque de vives controverses. Isabelle, pouvez-vous nous dire pourquoi ?
La promotion de ce double album History, pour laquelle Sony va quand même dépenser 30 millions de dollars, est vraiment marquée par ce côté gigantisme, historique, monumental. Alors c'est ce qu'on retrouve sur la pochette, c'est aussi une vie personnelle qui se superpose à des problématiques d'histoire générale, d'histoire de la société bien sûr, et qu'il va transposer dans le monde réel, notamment par cette immense statue qui précède sa venue dans toutes les villes où il passe sa tournée. Un teaser aussi très mégalomaniaque qui va reprendre une codification politique assez mal vue, qui est plus qu'une simple publicité, qui n'est pas un clip vidéo, qui n'est pas vraiment un film. Vraiment, encore une fois, la capacité de Michael Jackson à décloisonner les genres et à aller toujours plus loin, plus grand, avec des effets spéciaux absolument incroyables.
Le roi de la pop est-il devenu mégalomane ? C'est la question qu'on peut se poser quand on pense à History. Et c'est vrai que vous n'avez pas manqué de superlatifs pour décrire cette promotion, Isabelle. Mais je peux pas vous en vouloir, parce que c'est vrai, ce teaser a des allures de bande-annonce de film. Et c'est sûrement pour cette raison d'ailleurs que cet animateur américain était surexcité à l'idée d'annoncer le grand retour de Michael Jackson.
Michael est de retour aux affaires, plus grand et meilleur que jamais. Michael Jackson nous a envoyé un petit cadeau spécialement pour vous. Il vient nous annoncer qu'il est de retour.
Cette promotion est à l'image du nouveau disque du roi de la pop qui peut se traduire en un seul mot, transgressif. Jamais auparavant, Michael s'était montré aussi provocant. Animé par une rage accumulée depuis de longs mois, il va régler ses comptes avec tous ceux qui lui ont causé du tort. Les références sur l'affaire Chandler y sont nombreuses, et les tacles envers la presse People n'ont jamais été aussi virulents. History veut tenir ses promesses en proposant de découvrir plus intimement l'homme qui se cache derrière la star mondiale. Alors le 16 juin 1995, à la sortie de l'album, Michael espère que son cri du cœur sera enfin entendu.
Bonjour à tous, c'est probablement l'événement musical de l'année. Le double album de Michael Jackson, History, a été mis en vente aujourd'hui à minuit. Les fans traversent les frontières pour être sûrs d'avoir les premiers exemplaires. De son côté, la machine publicitaire de Jackson se met en route pour s'assurer que ce disque permette au roi de retrouver son trône.
Il est temps de savoir à quoi ressemble cet album, puisque ça y est, il est sorti. Alors qu'en est-il d'History, Isabelle ?
Cet album mélange New Jack Swing, rock, soul, R&B, arrangements orchestraux. C'est vraiment tout à la fois un nouveau site d'expérimentation sonore pour Michael Jackson et un immense terrain d'expression où il va proposer tout un panel, un voyage à travers tout ce qu'il est capable de donner, tout son potentiel stylistique. Et c'est vrai qu'on est quand même à une époque où la plupart des productions pop sont plutôt marquées par une instrumentation très clairsemée, un petit groupe de musiciens, des synthétiseurs. Et non, History, lui, va convoquer des musiciens de studio, certes, mais de renommée internationale, mais aussi un orchestre de 60 musiciens et de chœurs. Jackson va y inclure, comme souvent, des featuring prestigieux, avec la présence de Notorious Big, sa sœur Janet. Il renvoie à Charlie Chaplin avec Smile, à son enfance rêvée et déçue avec Childhood. Et en même temps, il dénonce, il hurle parfois sa colère, l'incompréhension dans son monde des victimes, les manipulations médiatiques, la cruauté imbécile de ses détracteurs, dans des titres comme Scream, DS, Tabloid Junkie.
Cet album, qui est considéré comme le plus autobiographique de la star, réalise un très bon démarrage avec ce chiffre impressionnant, 400 000 exemplaires vendus la première semaine. Un chiffre qui aurait pu plaire à Sony, seulement voilà, cet album n'est tout simplement pas rentable. La promo d'History a coûté énormément d'argent à la maison de disques, avec, je vous le rappelle, 30 millions de dollars qui ont été dépensés pour le lancement de ce projet ambitieux. La seule solution pour Sony de rattraper le coup est d'organiser alors une tournée pour booster les ventes de l'album. Mais les dirigeants de la multinationale sont confrontés à un obstacle de taille. Michael s'oppose à l'idée de se produire sur scène. Évidemment, en prenant cette décision, la relation qu'il entretient avec ses patrons se détériore, mais Sony finit par avoir le dernier mot. Et c'est finalement, à contre-cœur, que l'artiste sillonne les routes du monde entier.
Michael, est-ce qu'on pourrait la refaire sans que tu dises que tu n'aimes pas partir en tournée ?
Ah, j'aime pas ça.
Je sais bien, mais...
C'est l'enfer, ces tournées. Ok, vous savez quoi ? Je vais le faire en positif. Mais vous savez ce que j'en pense, hein ?
Ok, et ça tourne, Michael.
J'adore partir en tournée. Ben voilà, vous avez tout fichu en l'air. Pourquoi vous avez rigolé ? J'étais à fond dans mon truc, là.
Pour la première fois de sa carrière, Michael n'a plus envie. Au point de traîner des pieds pour aller en tournée, vous venez de l'entendre. Isabelle, quelles sont les raisons de cette baisse de motivation de la part de Jackson ?
Le History World Tour va s'avérer être en fait la dernière tournée mondiale de Michael Jackson. En fait, elle commence le 7 septembre 1996 à Prague, en République tchèque, et ce sera d'ailleurs le plus grand concert de la tournée avec 130 000 spectateurs. Et elle se termine le 15 octobre 1997 à Durban, en Afrique du Sud. C'est vrai que pourtant Michael Jackson n'aime plus les tournées, n'aime pas ça, et il ne s'en cache pas d'ailleurs. Il n'hésite pas à le dire à chaque fois qu'on le lui demande. C'était pas tant qu'il n'a pas envie de voir son public et de partager, mais c'est qu'il est tellement fatigué par ses voyages à travers le monde, où chaque jour il traverse un autre pays, avec des décalages horaires, des conditions quand même énormes. Et ses prestations, qui sont toujours très hautes en intensité, l'épuisent physiquement. Il a été pas mal atteint ces dernières années par ses polémiques, moralement, physiquement. Il se sent de moins en moins la force d'y faire face. Il n'a donc pas envie de repartir, mais il le fait quand même pour son public, pour les besoins de la promotion. Et c'est aussi à cette période que vont s'installer des nouvelles tensions avec son label, qui va interrompre la promotion de l'album, notamment suite à une polémique autour de They Don't Care About Us, dans laquelle Michael Jackson va être accusé de proférer des insultes antisémites. Encore un nouveau coup au cœur, de nouvelles incompréhensions pour lui. Décidément, on prête à celui qui était adulé dans les années 80 désormais tous les vices, toutes les mauvaises intentions du monde. En fait, il semble être devenu, après avoir été celui qu'on portait au pinacle, celui que le peuple immole, piétine et rejette.
Et les tensions avec sa maison de disques ne vont pas s'apaiser, puisqu'après avoir présenté tous les titres forts de l'album, Sony réfléchit à une solution pour attirer le public sur la deuxième partie de la tournée du History Tour. L'idée de proposer un nouveau disque est alors envisagée. D'abord réticent, Michael se laisse convaincre. Blood on the Dance Floor voit le jour le 14 mai 1997 et continue sur la lancée d'History. On y voit le chanteur se confier une fois de plus sur ses états d'âme et résigné à l'idée d'être un personnage étrange à défaut d'être un homme comme les autres aux yeux du monde, Michael joue de son image et livre sans aucun doute l'album le plus sombre de sa carrière. On peut le dire très franchement, en 1997, Michael n'est plus un artiste privilégié au sein de sa maison de disques. Lui qui a toujours pris le temps d'être inspiré pour sortir un nouvel album, il est aujourd'hui contraint d'en livrer un autre seulement 2 ans après History. Alors finalement, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce nouveau projet, Isabelle ?
En 1997, Sony va imposer à Michael Jackson de sortir Blood on the Dance Floor, un album, si on peut dire, qui comprend des remixes de plusieurs chansons de History, ainsi que 5 nouveaux titres. Alors, ce disque est destiné à compléter la tournée européenne du History World Tour, à redonner un coup d'énergie, à recréer une nouvelle actualité. Mais Michael Jackson, une fois de plus, n'adhère pas au concept qui lui est imposé. La chanson-titre Blood on the Dance Floor va sortir en single, va être accompagnée d'un clip. Mais pour autant, bien que cet album soit assez populaire en Europe, il va vraiment passer inaperçu aux États-Unis. Alors on dira à l'époque de Blood on the Dance Floor qu'il a la vitalité d'une intelligence qui refuse d'être apaisée, que c'est une arme, un défi au concept de pop noir inoffensive. C'est vrai qu'à ce stade de sa vie et de sa carrière, Michael Jackson n'a aucun intérêt à créer des chansons formulistiques sans esprit, à destination des radios, se placer dans la lignée des succès des Spice Girls ou des Hanson. A l'inverse, avec Blood on the Dance Floor, il trouve quand même le moyen d'explorer des voies complexes sur le plan psychologique et social dans ses textes, parmi lesquels on retrouve l'addiction, l'obsession sexuelle, la normalité et la peur. En fait, il reprend, là où elles en étaient restées, les pistes les plus intenses de l'album History. You're weird. You're strange.
And I don't like you. Parmi les titres forts de cet album, il y a Blood on the Dance Floor, bien sûr, mais aussi Ghost. Et on va s'y intéresser plus particulièrement, puisque ce dernier va bénéficier d'un court-métrage innovant une fois de plus, mais cette fois-ci. Ce récit fictif s'inspire directement de l'histoire du roi de la pop. Isabelle, pouvez-vous nous en parler ?
En parallèle de cette production, il va également sortir Ghost, un court-métrage fantastique d'à peu près 40 minutes qui s'inspire de l'œuvre de Stephen King. Cet immense clip vidéo, ce mini-film à la manière un peu de Moonwalker, mais dans la lignée de thriller, est réalisé par Stan Winston et va être diffusé hors compétition au Festival de Cannes en 1997, puis dans quelques salles de cinéma. Michael Jackson s'y met en scène, au travers de chansons comme Ghost ou Is It Scary, en revisitant avec une certaine ironie le spectacle de curiosité et en stylisant dans une mise en scène qui rappelle les contes de la crypte, je crois, des perceptions négatives liées à son image physique, à sa conception marginale du monde, à sa relation aux enfants, à sa fuite permanente et à ses choix de vie singuliers. En fait, Ghost, c'est vraiment une critique sociale sombre d'une Amérique qui a tendance à marginaliser tout ce qui sort de la norme. Michael Jackson n'a pas peur de placer les enfants, dans ce contexte quand même rigide et hypocrite, en position de force et d'espoir, puisqu'ils incarnent la frange la moins sociabilisée et formatée de la société. Et lui-même, en jouant à la fois le rôle de l'étrange châtelain et du maire, son détracteur, blanc, conservateur, il incarne finalement les 2 versants de l'opinion et ne s'oppose en fait symboliquement à aucune autre personne physique que lui-même. Alors, avec ses nouveaux souffles, la stratégie de Sony fonctionne Et tout cela va prolonger la durée de vie du History Tour de quelques mois.
Après l'affaire Chandler, on aurait pu croire à une fin de carrière prématurée pour le roi de la pop. Mais la page History se tourne et se finit sur une bonne note. Et au terme de 13 mois sur les routes, cette tournée est une réussite. Mieux encore, elle est la tournée la plus lucrative pour un artiste solo dans les années 90. À l'image du Bad Tour qui avait réussi ce même exploit dans les années 80. L'homme de tous les records surprend avec Blood on the Dance Floor qui bat lui aussi un record, celui de l'album de remix le plus vendu de tous les temps avec 6 millions d'exemplaires vendus. Pour autant, il reste une ombre au tableau. Michael n'aura pas réussi son pari de se racheter une bonne image au sein de l'opinion publique. Et fatigué par tous les efforts qu'il a entrepris au cours de ces dernières années, il finit par prendre ses distances avec l'industrie musicale dès la fin de l'aventure History. Une absence qui va durer près de 4 ans, jusqu'au début des années 2000. Si les années 90 ont été très rudes pour le plus talentueux des frères Jackson, vous allez voir que ce n'est rien comparé à ce qu'il va vivre au cours de la prochaine décennie. C'est la fin de cet épisode, merci d'avoir été avec nous, merci Isabelle pour toutes ces précisions. On se retrouve très vite avec la suite de votre série, l'avant-dernier épisode qui va se concentrer sur la décennie des années 2000 qui va être chaotique. Pour Michael, soyez là. En attendant, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous pour des bonus, pour vous faire patienter jusqu'au prochain épisode. Et j'en profite également pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux à suivre ce podcast. Et pour continuer à le faire grandir, rien de plus simple. Vous pouvez déjà vous abonner pour ne rien louper, le noter sur les plateformes de streaming, ça aide au référencement, et bien sûr, le partager. On se donne rendez-vous d'ici un mois pour l'épisode 9. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas. Faites comme ces hommes et ces femmes qui ont marqué l'histoire. Soyez différents, soyez uniques, parce qu'on ne sait jamais. Vous avez peut-être un destin de légende entre vos mains. À très vite.